journal, Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour.
Les cérémonies religieuses se déconfinent. Après les premières messes hier, les musulmans célèbrent aujourd'hui la fin du ramadan. Sans aller à la mosquée, ils étaient 2000 ce matin dans un stade de Levallois-Perret et dans le strict respect des consignes de sécurité. L'épidémie est-elle passée? Le risque d'une deuxième vague en train de s'éloigner? Selon une enquête du syndicat des médecins généralistes MG France, très peu de patients venus consulter ont été testés positifs, environ 5 à 6%. On en parle avec le président du syndicat, Jacques Battistoni, dans un instant. Dans ce journal également, des milliers de manifestants à Hong Kong contre une loi de sécurité nationale imposée par Pékin. Benjamin Netanyahou jugé pour corruption, c'est une première pour un premier ministre israélien en fonction. La Martinique qui polémique sur Victor Schœlcher, dont deux statues ont été renversées par des manifestants. Et puis les artistes et responsables de festivals qui appellent au soutien de la scène française particulièrement sinistrée depuis plus de 2 mois et qui ne voient pas la sortie du tunnel.
France Inter.
Célébrer l'Aïd el-Fitr dans un stade, c'est la solution qui a été trouvée à Levallois-Perret, en banlieue de Paris, pour pallier la fermeture des mosquées, on l'a dit. Bien que les cérémonies religieuses soient de nouveau autorisées, le temps était trop court pour s'organiser, d'où l'idée, pour cette première grande prière en public depuis 2 mois, l'idée d'utiliser le complexe sportif de Levallois, où plus de 2000 musulmans sont venus ce matin marquer la fin du ramadan, en respectant strictement les consignes de sécurité. Valentin Dunat.
Dès l'entrée dans le stade, les fidèles devaient présenter leurs mains et se les faire asperger de gel hydroalcoolique. Tous devaient porter des masques et placer leur tapis de prière à 1 mètre de distance des autres fidèles. Ali Essebki est le président de l'Union des musulmans de Levallois.
On voit clairement que les distances de sécurité sont respectées. On a des garçons, on a des bénévoles qui s'occupent de faire respecter les distances sanitaires. Comme vous pouvez voir, c'est dégagé, c'est...
Personne ne se touche et il y a déjà au moins 2000 personnes là.
Oui, à peu près, ouais. Ils ont tous leurs masques, c'est magnifique.
Sous un soleil radieux, cette célébration a duré un peu plus d'une heure et pour les fidèles, comme Mohamed...
Tout est possible si on a l'infrastructure. Après, c'est clair que habituellement, nos mosquées sont trop petites. Trop petites, mal aérées, mal situées. Effectivement, l'infrastructure est primordiale dans ces cas-là. Là, vous avez de l'espace, il fait beau, on a la chance qu'il ne pleut pas, donc c'est très bien.
Vous allez faire quoi maintenant?
On va inviter des amis à boire le thé, on va inviter les voisins à boire le thé, manger des petits gâteaux, et voilà.
Jusqu'à la fin, le mot d'ordre a été respecté. Pas d'accolade, pas d'embrassade, aucun regroupement. Les fidèles de Levallois ont prouvé qu'il était possible de réunir plusieurs centaines de personnes tout en respectant les règles de sécurité sanitaire.
Et dans plusieurs pays musulmans, l'Égypte, l'Irak, la Turquie par exemple, les prières collectives ont été interdites. En Arabie Saoudite, c'est un couvre-feu total qui a été décrété pour 5 jours. Sur le front de l'épidémie, la décrue se poursuit très nettement avec un peu plus de 1600 personnes en réanimation aujourd'hui, 600 de moins en une semaine. Le syndicat MG France, premier syndicat des médecins généralistes, a mené une enquête auprès de ses adhérents. Résultat, sur plus de 6000 patients reçus en consultation et testés, un peu plus de 300 cas positifs, un taux de 5 à 6% seulement. On est loin donc de ce qui avait été imaginé. Jacques Battistoni, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de MG France. Il y a donc peu de cas positifs parmi vos patients. C'est le constat que vous avez pu faire depuis le déconfinement. Surpris de ce résultat?
Pas vraiment surpris, parce que quand on fait le total, on tombe à peu près sur les chiffres qui avaient été annoncés par Santé publique France, c'est-à-dire environ un peu plus de 2000 cas nouveaux par jour en France. Donc on en a vu une partie, on a mesuré ça.
Est-ce que ça veut dire que l'épidémie est passée ou qu'elle est en train de passer?
Ça mesure, je crois, ces chiffres-là, ce qui se passe à la fin du confinement. En fait, c'est pas du tout la conséquence de l'ouverture qui s'est produite à partir du 11 mai. C'est la mesure de ce qui, du résultat d'une politique de confinement qui a porté ses fruits, qui fait que le virus diffuse beaucoup moins.
Donc, sachant qu'il y a un temps d'incubation de 15 jours, hein, donc ces chiffres sont tout à fait provisoires pour l'instant.
Tout à fait. Le temps d'incubation en moyenne est 4 à 5 jours. Il peut aller jusqu'à 15 jours, effectivement. Et donc, on voit bien qu'on ne verra les effets du déconfinement, si effet il y a, qu'à partir de la fin, on aurait pu voir à partir de la fin de cette semaine. Donc, nous allons refaire la même enquête en posant la question au médecin généraliste sur la semaine qui commence demain, voir s'ils vont avoir plus ou moins. Et ça sera extrêmement intéressant. Ça permettra de mesurer si effectivement le déconfinement entraîne une augmentation de la diffusion du virus. Aujourd'hui, nous ne le savons pas encore.
Alors le gouvernement doit donner un bilan des victimes de l'épidémie en ville hein, à la fin de ce mois, normalement, victimes directes ou induites du Covid. MG France avait avancé le nombre de 9000 morts. Est-ce que c'est toujours d'actualité ?
Ça n'a jamais été qu'une estimation en faisant une extrapolation par rapport aux chiffres que nous avaient déclarés les médecins qui répondaient à notre enquête. En fait, c'est extrêmement difficile à mesurer parce qu'on n'a pas de mesure précise. On ne sait pas qui sont les gens qui sont morts du Covid puisque en ville, on n'a jamais pu jusqu'à maintenant, jusqu'au 11 mai, on ne pouvait pas faire de test. Donc on a mesuré les gens qui étaient présumés morts. Je voudrais simplement rapprocher ces 9000 des 11000 décès en EHPAD en sachant que beaucoup de patients vivent même âgés à domicile et donc on a un chiffre qui est d'un ordre de grandeur un peu comparable.
Est-ce que vous savez parmi les médecins combien y a-t-il eu de cas positifs, combien de victimes ?
Alors il y a eu un peu plus de 2000 cas positifs chez les médecins et il y a eu une petite quarantaine de médecins qui sont décédés, ce qui est beaucoup. Hein, ce qui est beaucoup parce que ce sont des décès qu'on aurait dû pouvoir éviter.
Avec du matériel, c'est ce que vous voulez dire.
Avec du matériel. En fait, les médecins étaient protégés, mais le médecin portait un masque, mais son patient ne portait pas de masque souvent. Et donc, on sait bien que c'est le fait de porter un masque les uns et les autres, et pas simplement soit pour se protéger, qui aurait pu protéger ces médecins.
De façon générale, deux semaines après le déconfinement, quelle est la situation dans les cabinets ? Les patients, on le sait, avaient reporté leur visite chez le médecin. Sont-ils revenus en masse ?
Alors, les patients reprennent le chemin de nos cabinets, on voit bien, on est encore un petit peu en dessous, on avait posé cette question aussi dans notre enquête récemment, un petit peu en dessous de la fréquentation habituelle, mais globalement, on retrouve petit à petit le niveau de fréquentation antérieure. En tout cas, ce ne sont pas les patients qui présentent des symptômes de Covid qui prennent beaucoup de place dans nos cabinets, donc il faut rassurer les patients, vous pouvez venir, vous avez extrêmement peu de chances de croiser un patient présentant un Covid et porter un masque dans nos cabinets, bien sûr.
Jacques Battistoni, président d'OMG France, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
La loi sur la sécurité nationale à Hong Kong devra s'appliquer sans délai. Le ministre chinois des Affaires étrangères a été très clair au moment même où des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues de l'ancienne colonie britannique contre ce projet de loi, justement, qui vient d'être déposé au Parlement de Pékin et que rejettent les militants pro-démocratie. Florence de Changy, vous êtes à Hong Kong. La ville a retrouvé ce matin des scènes d'affrontements qu'elle n'avait plus connues depuis des mois.
Absolument. Et en ce moment, la situation est plutôt surréaliste parce qu'on a effectivement des grands axes qui sont bloqués, comme on en a vu pendant des mois l'année dernière. Il y a encore quelques centaines, peut-être des milliers de manifestants qui sont assis au bord des trottoirs. On dirait en fait qu'ils attendent que la police arrive. Il y a des poubelles renversées, des routes bloquées par des pavés, des barrières qui jongent donc les grands axes et les rues pour ralentir en fait la police qui se fait insulter bien sûr dès qu'elle approche. On voit aussi des graffitis qui avaient tous été recouverts pendant les mois d'épidémie qui ont à nouveau réapparu, notamment on voit résister ou alors ils ne peuvent pas tous nous tuer, ce qui donne l'ambiance. Il semblerait qu'on en ce moment, en fait, alors que c'est devenu plus calme à cause Weibei, des nouvelles émeutes sont en cours dans d'autres quartiers de Hong Kong, notamment Mong Kok et Tsim Sha Tsui, donc dans le nouveau territoire. Et en fait, les manifestants aujourd'hui expliquaient surtout que c'était un peu pour voir quel suivi ils avaient. Ils veulent surtout donner rendez-vous à tout le monde jeudi prochain. Ils veulent bloquer l'accès au Parlement local, le LegCo, pour en fait empêcher physiquement le passage des deux textes de loi qui sont au cœur de la colère. Un, bien sûr, la loi sur la sécurité nationale que Pékin vient d'imposer et également la loi sur le respect du drapeau et de l'hymne national qui était à l'origine du rassemblement d'aujourd'hui.
Florence de Changy à Hong Kong avec une liaison parfois difficile. Merci. La Chine qui souffle le chaud et le froid en direction de la communauté internationale. On est au bord de la guerre froide avec les États-Unis, a également déclaré ce matin le ministre des Affaires étrangères étrangères de Pékin, qui dit regretter les polémiques relatives au Covid-19. À ce sujet, en revanche, son pays se dit prêt à coopérer avec l'étranger pour identifier la source du virus, mais à condition justement qu'on s'abstienne de toute ingérence et qu'on cesse de propager des rumeurs. En Israël, c'est une première, la première fois qu'un chef de gouvernement en fonction est jugé pour corruption. Benjamin Netanyahou, qui joue depuis un an et demi sa survie politique, va devoir maintenant se défendre sur le plan judiciaire. Son procès, qui pourrait durer plusieurs années, s'ouvrira dans moins d'une heure maintenant au tribunal de Jérusalem, où vous vous trouvez, Frédéric Mettezo, correspondant de France Inter à Jérusalem, dans une ambiance un peu délétère hein, ce matin. Beaucoup de manifestations à Jérusalem, à la fois des pros et des anti-Netanyahou.
Exactement, Yves, devant la résidence du Premier ministre et devant le tribunal, des manifestations de partisans et d'adversaires de Benjamin Netanyahou, une centaine, quelques centaines de personnes, pas plus. Les premiers, les pros, accusent, je cite, les juges, les médias et la gauche de confisquer la démocratie. Les anti-Bibi Netanyahou dénoncent la corruption et un crime minister. C'est ce qui est écrit sur les masques anti-corona. Crime minister, le ministre du crime. Un jeu de mots avec Prime Minister, le Premier ministre. Le climat, vous l'avez dit, Yves, est délétère. Le procureur et les juges ont reçu des menaces de mort. La juge principale, qui est passée devant nous, est entrée sous protection du Shin Bet, le service de sécurité intérieure d'Israël. Le ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Justice, lui, a dénoncé la partialité et la malhonnêteté du procureur hier soir à la télévision. D'ailleurs, plusieurs ministres de droite seront ici au tribunal en soutien à Benjamin Netanyahou. Le fils du Premier ministre, Yair Netanyahou, écrit de son côté sur Twitter que la chasse est ouverte. Il n'hésite pas à comparer son père au capitaine Dreyfus.
Carrément, Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Benjamin Netanyahou qui fait l'objet de nombreux chefs d'inculpation, fraude, abus de confiance, tentative de collusion ou encore dons présumés de cigares, de champagne et de bijoux. Avant lui, Ehud Olmert avait été inculpé pour corruption, mais il n'était plus Premier ministre. Il avait d'ailleurs été condamné et avait fait 16 mois de prison. Retour en France, en Martinique. C'est une affaire qui fait grand bruit depuis que deux statues de Victor Schœlcher ont été renversées par des manifestants. Les messages d'indignation se multiplie jusqu'au président Macron pour qui cet acte salit la mémoire de celui qui avait aboli l'esclavage il y a 172 ans. Et il salit aussi, écrit le président, en même temps la République. Pour les manifestants qui se présentent comme des anti-béquets, Victor Schœlcher n'est pas un sauveur. Il est le symbole de l'héritage colonial de la France. Au contraire, Julie Pietri, la chute de ces deux statues, dont la vidéo tourne sur les réseaux sociaux, c'est le point d'orgue d'une série d'actions commencées il y a déjà plusieurs mois.
Sur une vidéo, on voit plusieurs personnes tirer une statue avec une sorte de ruban épais jusqu'à la faire tomber au sol. Elle est ensuite frappée à coups de pied et de marteau. Deux jeunes femmes revendiquent plus tard la destruction sur leur compte Facebook.
Nous assumons pleinement notre acte parce que nous en avons assez, nous, jeunes Martiniquais, d'être entourés de symboles qui nous insultent.
Il y a un problème à ce niveau-là, les statues, les noms des rues, et on en a assez.
Depuis, historiens, écrivains martiniquais condamnent ces actes et dénoncent une interprétation erronée de l'histoire. Oui, le rôle des esclaves dans le processus d'abolition a été trop longtemps sous-estimé, mais Schœlcher a bien eu un rôle clé.
Il était sous-secrétaire d'État aux colonies, très vite, il a fait décréter l'abolition.
Jean-Claude William, professeur de sciences politiques, interrogé par la radio martiniquaise, RCI.
On l'a effectivement parfois un peu surestimé, le rôle de Schœlcher. Mais même si on l'a surestimé, on ne peut pas le nier. Et je vois pas très bien où est l'insulte. Il faut voir que depuis quelque temps déjà, il y a une fraction de jeunes martiniquais surtout qui manifeste sa révolte. Je crois qu'il y a un vrai ras-le-bol.
Certains manifestants qui crient aujourd'hui que Schœlcher n'est pas leur sauveur ont revendiqué ces derniers mois des blocages d'hypermarchés dont les propriétaires, descendants blancs de colons, sont accusés d'avoir pollué la Martinique avec l'utilisation d'un pesticide, le chlordécone, dans les bananeraies. Annick Girardin, ministre des Outre-mer.
Les blocages de la résidence du préfet, la violence contre les touristes à l'aéroport, c'est un groupe qui est raciste, violent et on le voit là sans limite.
Une enquête est actuellement en cours.
Julie Pietri. En politique, c'est le week-end Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, élu maire à Tourcoing, a eu l'occasion de dire et répéter qu'il restait au gouvernement, en confirmant encore ce matin qu'il avait eu l'accord d'Emmanuel Macron, bien entendu. Crise sanitaire oblige, il cumulera donc les deux fonctions un certain temps, mais sans cumuler les rémunérations. Gérald Darmanin qui profite de cet instant médiatique pour avancer un certain nombre de propositions sur la généralisation de l'actionnariat salarié, par exemple. Le jeune ministre est maire maire de 37 ans se revendique du gaullisme social en appelant à mener une politique pour le peuple. Manifestement, Maxence Lambrecq, il prend date et cherche à se positionner, à mieux peser sur la fin du quinquennat.
L'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy n'a pas perdu la main. À l'heure où l'actualité faiblit, en plein week-end de l'Ascension, il se fait élire maire de Tourcoing et réserve ses interviews au lendemain. La une du JDD, donc, le grand jury il y a quelques minutes, puis un plateau d'éditorialistes. Retrouver la lumière après deux mois dans l'ombre. À Bercy, l'hyperactif Bruno Le Maire s'est imposé comme le ministre du quotidien, multipliant les plans d'aide, les annonces et jouant même la droite sociale scandalisée par les délocalisations. Cette petite musique ressemble à une offre de service pour Emmanuel Macron. En voici donc une deuxième. À 37 ans, l'ex-député UMP du Nord met en avant son parcours. Petit-fils d'immigrés, fils de femme de ménage, électeur de Chevènement en 2002, fidèle au gaullisme social de Séguin, Gérald Darmanin se pose en réconciliateur. Mon ADN, c'est d'être un élu local à portée d'engueulade. Les gilets jaunes et cette épidémie ont mise en lumière des fractures béantes qu'on ne voulait pas voir. Il propose déjà un remède, que les salariés deviennent actionnaires de leurs entreprises. Il est temps, dit-il, de ressusciter la grande idée gaulliste de la participation. Idée qui dépasse largement le champ de son ministère. Gérald Darmanin est donc bien à l'étroit au budget. Le message est passé à l'Élysée.
Maxence Lambrecq. Partir en France cet été plutôt qu'à l'étranger, la ministre des Transports et de la Transition écologique, Elisabeth Borne, réitère son appel aux Français à privilégier l'Hexagone. Elle l'a dit sur France Inter en question politique, en confirmant également que les parcs et jardins resteront fermés à Paris malgré les appels lancés par la mairie, car la ville est toujours en zone rouge. Quant au plan de relance annoncé pour l'automobile, il fera en sorte de faciliter l'achat de voitures électriques et d'encourager les ménages les plus modestes à changer de voiture, ce qui confirme le retour possible d'une prime à la casse. Hier, les auteurs, aujourd'hui les artistes, après l'appel à l'aide des écrivains, éditeurs et libraires pour le secteur du livre, éditeurs de musique et musiciens appelle aujourd'hui à la mobilisation générale pour soutenir la scène française. De nombreux artistes, Souchon, Voulzy, Clara Luciani, Jean-Michel Jarre, des responsables de festivals comme les Nuits de Fourvière ou les Eurocaennes, des médias comme Radio France. Le fait est, Jacqueline Pétros, que parmi les secteurs sinistrés de cette période, la scène, le spectacle vivant en général est particulièrement concerné.
La crise sanitaire va effectivement impacter encore plus longtemps le secteur de la musique que d'autres domaines culturels. Pour les concerts et les festivals, pas de date de reprise et l'été est perdu. On estime que 65 000 spectacles ont été annulés depuis fin mars. Les ventes de disques qui déjà accusaient de lourdes pertes sont en chute libre et les prestations sur les réseaux sociaux pendant le confinement étaient en majorité gratuites. Cet appel est donc une question de survie. Il s'adresse aux radios et télévisions pour qu'elles diffusent des chansons françaises, des concerts pour tenter de faire vivre, même virtuellement, des festivals. Car sans droit d'auteur cet été, c'est en répercussion pour les artistes, techniciens et producteurs, un an à un an et demi sans revenus. Si Radio France est signataire de cet appel, ce n'est pas un hasard. Nos antennes se sont mobilisées avec des concerts confinés dans les cuisines, des soirées pyjama comme avec Clara Luciani.
Alors j'ai un dispositif assez réduit, un téléphone que je vais faire tenir sur un verre d'eau, et on s'est rebaptisé la radio débrouille.
Même en version intimiste, le plaisir est là, et c'est en multipliant les initiatives que l'on soutiendra la diversité et la spécificité de la scène musicale française.
Chaque coup que tu reçois, ricoche et me frappe de fois.
Voilà, une scène française symbolisée par Clara Luciani, diffuser le plus possible d'œuvres françaises ou francophones. C'est depuis longtemps le mot d'ordre sur France Inter, évidemment. En sport, Olas, trois fois Olas, il fallait s'y attendre. La reprise annoncée de la Liga, le championnat de foot espagnol pour le 8 juin, a redonné de la voix au président de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas dit son dernier mot sur l'arrêt proclamé de la Ligue 1. Pour lui, le choix différent de nos voisins doit nous amener à reconsidérer cette décision. Mais tout dépendra maintenant sans doute de ce que feront l'Italie et l'Angleterre. Et puis en tennis, c'est autre chose. On sait que le tournoi de Roland-Garros se tiendra fin septembre, probablement le 27, la date reste à officialiser. Se jouera-t-il à huis clos ou pas nécessairement, rien n'est encore décidé. Roland-Garros, cela dit, aurait dû débuter aujourd'hui même, ce dimanche. Alors, petit pincement au cœur, bien sûr, pour les pros du circuit, Richard Gasquet et Nicolas Mahut.
C'est une situation incroyable, hein, voilà, pour tous les sports, pour toute la vie quoi, en général, c'est un truc de fou quoi. Totalement inenvisageable. L'an passé, si on t'avait dit voilà, l'an prochain il n'y aura pas de Roland Garros, c'est sûr que ça aurait été, jamais on l'aurait cru, mais bon, pour les autres sports c'est pareil, le Tour de France on ne sait pas, la Ligue 1 ça joue pas, la Champions League ça arrête en quart de finale, en huitième. Voilà, c'est inédit, c'est incroyable, mais bon, c'est comme ça. Après, encore une fois, c'est que du sport aussi, hein. faut quand même pas l'oublier. Donc il y a des choses plus importantes aussi que Roland Garros, mais bon, après on verra quoi.
Habituellement à cette période-là, je suis toujours en train de regarder la météo, savoir est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau. Enfin, c'est des habitudes un petit peu comme ça qu'on est en train de perdre petit à petit. Forcément qu'il y aura un petit pincement quand on passera devant le stade. Moi j'habite juste à côté. Mais encore une fois, on est déjà concentré. Enfin, Roland pour nous, c'est le mois de septembre maintenant.
Voilà, Gasquet Mahut, au micro de Fabrice Abgral.